Vous écoutez, on lit pour vous.
Initiative, la musique contre le travail des enfants. Un texte de la rédaction paru le 18 avril 2024 sur le site web de l'Organisation internationale du travail. L'initiative, la musique contre le travail des enfants, lancée en 2013 par l'OIT et quelques-uns des meilleurs musiciens au monde, fait un appel aux musiciens du monde entier et leur demande de dédier un concert ou une chanson à la lutte contre le travail des enfants. Les objectifs de l'initiative musicale sont exposés dans le manifeste de l'initiative « La musique contre le travail des enfants ». L'éducation musicale autonomise les enfants, développe leurs compétences et, essentiellement, les encourager à aller à l'école et à y rester. Les partenaires de l'initiative font appel à tous les acteurs du monde de la musique à se joindre à nous afin de participer dans la sensibilisation sur le travail des enfants et sur l'importance de l'éducation musicale et artistique dans la lutte contre ce fléau. Peu importe votre âge ou votre niveau, peu importe que vous fassiez partie d'un groupe, d'un orchestre, d'une chorale, ou que vous soyez soliste, votre musique peut aider à sensibiliser et inciter à agir. Les contributions des musiciens de tout genre ont la même valeur. Soul ou son, high life ou hip-hop, folk ou jazz, rock ou tango, musique traditionnelle ou tout autre genre de musique. Et si vous ne composez, ne jouez ou ne chantez pas, vous pouvez participer en mobilisant les musiciens de votre pays, par exemple par l'intermédiaire de leur syndicat, ou en soutenant les événements musicaux dans votre communauté afin qu'ils joignent cette initiative. Avec votre musique, vous participerez activement et vigoureusement contre le travail des enfants et pour la justice sociale. Rejoignez l'initiative en dédiant un concert et ou en dédiant une chanson. Visitez le site web des partenaires de l'initiative à l'adresse fr.musicagainstchildlabor.com fr.musicagainstchildlabor.com. C'était Initiative, la musique contre le travail des enfants, un texte de la rédaction paru le 18 avril 2024 sur le site web de l'Organisation internationale du travail.
Mon oncle Gérard et les robes transparentes. Un texte de Marie-France Bazot, paru le 20 mai 2025 dans La Presse. La directive est tombée à Cannes, étonnante, tout juste avant le début du festival. Les stars féminines avaient déjà retenu leur tenue pour la cérémonie d'ouverture auprès de leurs habituels pushers. Chanel, Balenciaga, Dior, qui s'étaient surpassés afin de les faire briller. Mais la direction du festival a décrété que les tenues seraient dorénavant plus chastes. Fini les transparences, les robes nues, les décolletés vertigineux, afin de ne pas distraire l'attention du cinéma, qui est, après tout, le sujet principal de la manifestation. Pas de tenue encombrante non plus, de traîne démesurée, afin de fluidifier la circulation et ne pas bloquer les marches du palais des festivals et les salles de projection. Des actrices ont été contraintes de changer de robe pour la cérémonie en catastrophe en vertu du nouvel édit stipulant que « la nudité sur le tapis rouge, dans le cadre institutionnel de l'événement et de la loi française, est interdite ». Les Français ont le chic pour les mots autant que les robes, mais celles-ci doivent désormais être à col roulé, genre. L'édit a donc donné du fil à retordre aux stylistes des célébrités qui suivaient visiblement la tendance des robes transparentes ou nues. En 2024, la mannequin Bella Hadid était apparue sur la Côte d'Azur en robe transparente Saint-Laurent brune, interdite cette année. Au Grammy en février 2025, Bianca Censori a choqué la foule en se montrant complètement nue sur le tapis rouge. Cannes est la capitale de l'apparence, un perpétuel défilé de haute couture, la vitrine des créateurs. C'est l'occasion pour les célébrités de flasher, d'attirer l'attention sur elles, sur les films, de séduire. À qui de juger si ce qu'elles font est décent, approprié? Encore une fois, la charge mentale s'abat sur les femmes. Que les femmes soient chastes ou exhibitionnistes, leur corps leur appartient. Or, dans un monde d'illusions comme celui du cinéma, la puissance féminine, l'érotisme et le rêve sont les ingrédients d'un cocktail que certains trouvent vénéneux. Bien sûr, à partir d'une certaine grille d'analyse, on peut aussi très bien affirmer que les femmes s'objectifient en se dénudant. Elles le font pour le plaisir du regard des autres. En se pliant ainsi au diktat du patriarcat, croient plusieurs, elles ne se respectent pas. Même en Occident, on voit surgir de plus en plus de manifestations de mode pudique, inspirées de l'islam pratiquant qui privilégie des tenues couvrantes. Même la marque Zara s'y met. La société impose une charge supplémentaire sur les épaules des femmes. Vous provoquez les hommes par vos tenues aguichantes. On n'est qu'à deux arguments du légendaire. On sait bien, habillé de même. Il est assez particulier que même secoué par le mouvement MeToo, même sous surveillance depuis les allégations d'agression sexuelle qui touchent le monde du cinéma, le Festival de Cannes et ses messieurs cravatés trouvent pertinent de dicter aux femmes leur tenue. Tout ce débat autour de la longueur des jupes et de la profondeur du décolleté revient régulièrement nous signifier que les corps ne sont pas égaux et que celui de la femme dans l'espace public est toujours politique. Ironiquement, c'est au moment où on scrute les femmes qui montent les marches à Cannes que Gérard Depardieu, le monstre sacré du cinéma français, le maître des propos salaces et des gestes graveleux, est condamné à l'issue d'un procès pour agression sexuelle. 18 mois de prison avec sursis pour avoir agressé deux femmes sur un tournage en 2021. Un procès où les victimes ont été confrontées à des questions stupéfiantes et aux remarques d'une rare violence de la part de l'avocat de l'acteur, lui-même puni par le tribunal pour ses excès de langage. Le cinéma français, gangrené par les allégations de scandales et d'agressions sexuelles, fait donc la fête à Cannes, mais ce sera pudiquement vêtu pour ne pas exciter les vieux mononcles pervers. C'est-y pas beau, ça? Le mouvement MeToo a déboulé en France par grandes vagues spectaculaires. Avec « Balance ton porc », l'équivalent du mouvement « Dis son nom » ici, l'affaire Pellicot, le procès de Pardieu. Pourtant, au pays de la galanterie et de la séduction, les mœurs n'ont pas tant changé. Afin que les relations hommes-femmes se transforment, que les cas d'abus, de harcèlement ou d'agression sexuelle ne soient plus banalisés, un vrai travail reste à faire, bien plus qu'au Québec, par exemple. Car les Pellicot, Depardieu et consorts ont agi après le début des vagues de dénonciation. Ils savaient que leurs gestes étaient fautifs. En 2025, le Festival de Cannes décide donc de protéger les femmes d'elles-mêmes et de potentiels Gérard avec de pudibondes mesures vestimentaires. Encore une fois, dans la cour des femmes. Et qui plus est, dans un contexte où la « modestie vestimentaire » gagne du terrain. Où des religieux pèsent de tout leur poids sur l'allure des femmes. Ne serait-ce pas aux hommes d'apprendre à se comporter avec respect, quelle que soit la longueur de la robe? Un décolleté n'est pas un consentement et une cuisse qui sort d'une jupe fendue n'a rien d'un sauf-conduit. Laissons aux femmes le droit de s'habiller autant en se découvrant qu'en se couvrant. Le vêtement est toujours un geste politique. Du kéfir recouvrant des épaules au sein pointant sous une guipure ajourée, rien n'est innocent. La guerre idéologique passe toujours par le corps des femmes, même à Cannes. C'était « Mon oncle Gérard et les robes transparentes », un texte de Marie-France Bazot, paru le 20 mai 2025 dans La Presse.
Souffrez-vous d'éco-fatigue? Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 8 mai 2025 dans La Presse. On a beaucoup entendu parler d'éco-anxiété ces dernières années. Mais aujourd'hui, la tendance inverse gagne du terrain. L'éco-fatigue. c'est une bien mauvaise nouvelle pour notre planète. À l'inverse des anxieux, les fatigués en ont ras-le-pompon des discours sur l'environnement, des statistiques culpabilisantes et des appels à l'action. Leur coupe est pleine, au point qu'ils mettent en doute les experts. Au Québec, ce groupe est de plus en plus nombreux, constate le directeur de l'Observatoire de la consommation responsable et professeur au département de marketing de l'ESG-UQAM, Fabien Durif. J'ai échangé avec lui, dans le cadre du dévoilement du baromètre de la consommation responsable qu'il publie depuis 15 ans. Ces constats ne le rassurent pas. Le phénomène d'éco-fatigue est inquiétant, tranche-t-il, parce qu'on a perdu une proportion relativement élevée de la population qui n'écoute plus vraiment, qui ne croit plus vraiment et qui est fatiguée d'entendre parler d'environnement. Même si 55% de la population dit ressentir les effets du changement climatique dans son quotidien, la surcharge d'informations concernant l'environnement se fait sentir. On est fatigué des leçons de morale, 34%, et des propos alarmistes, 36%. J'ai été surprise par le portrait type de l'éco-fatigué. Même si on entend souvent que les jeunes sont préoccupés par le sort de la Terre, ils sont surreprésentés dans le groupe, malgré leur niveau de scolarité plus élevé. Et puisqu'ils se sentent pessimistes et mal outillés pour faire une différence, ils sont moins enclins à changer leurs habitudes pour le bien de l'environnement. L'Observatoire constate aussi une importante différence entre les hommes et les femmes. On le voit statistiquement quand on croise les données. L'éco-fatigue est très liée aux hommes et aux générations plus jeunes. Les femmes restent celles qui continuent d'être préoccupées et de rechercher des façons de réduire leur impact sur l'environnement. Les femmes, note l'expert, ont toujours été les défricheuses des nouvelles tendances en matière d'écologie, plus sensibles à la cause et plus engagées, davantage convaincues que leurs gestes ont un impact. De leur côté, les hommes ont une perception décalée de leur propre comportement, se croyant bien plus responsables qu'ils ne le sont véritablement. Le professeur Durif voit aussi une libéralisation de la parole. Il y a 15 ans, c'était bien vu de faire sa part pour l'environnement, si bien que certaines personnes exagéraient leurs efforts lors de sondages. Aujourd'hui, on est moins gêné d'avouer qu'on ne fait aucun effort. Ce n'est pas rassurant, mais c'est plus honnête et ça donne des données de meilleure qualité aux chercheurs. On ne peut pas parler de consommation sans évoquer l'impact de la poussée inflationniste des dernières années. Ces effets ont été aussi nombreux que paradoxaux. D'un côté, les Québécois ont réduit leur gaspillage alimentaire et acheté davantage de biens de seconde main. Mais de l'autre, les hausses de prix ont plombé le marché des aliments biologiques, tout comme la tendance à l'achat local, du moins jusqu'à ce que Donald Trump entreprenne une guerre commerciale. C'est quoi, à la base, la consommation responsable? C'est consommer moins, si on y va de manière abrupte. Alors oui, l'inflation fait que l'on consomme moins, note Fabien Durif. Par contre, on a des paradoxes extrêmement forts, car ça a aussi amené le développement de Temu ou de Shein dans le secteur du vêtement. Ces deux plateformes chinoises, de plus en plus controversées, livrent leurs marchandises bon marché et de faible qualité partout dans le monde avec des avions, bien souvent. La France souhaite sévir dès 2026 en imposant des frais de gestion sur chaque petit colis entrant en Europe pour financer les contrôles, notamment de sécurité. Les détaillants québécois demandent à Ottawa d'agir contre cette concurrence qu'ils jugent déloyale. Mais le portrait n'est pas totalement sombre. La popularité du compostage a bondi de 22 points de pourcentage en 15 ans. Ça prouve que, lorsqu'on met en place des infrastructures pour faciliter les gestes écologiques, les citoyens embarquent. Ça démontre aussi qu'on est prêt à faire notre part pour la planète, pourvu que ce soit simple, rapide et gratuit. Sans surprise, les gestes plus contraignants obtiennent un score bien plus faible. Le baromètre montre que l'intérêt des Québécois pour l'environnement est loin d'avoir disparu, mais qu'il vacille, freiné par le découragement, l'inflation et la complexité des gestes à poser. Si on veut raviver la flamme, il faudra trouver de nouveaux arguments plus positifs, des solutions originales. Ailleurs dans le monde, la ludification et la comparaison sociale ont fait leurs preuves. Le désir de progresser et de faire mieux que leurs voisins pousse les citoyens à réduire leur consommation d'eau ou d'énergie. Mais encore une fois, il se pourrait que l'avantage économique soit le vecteur principal de la motivation. C'est toujours plus facile d'être vert quand écologie rime avec économie. C'était « Souffrez-vous d'éco-fatigue », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 8 mai 2025 dans La Presse.
L'ONU appelle à une action plus rapide contre le travail des enfants, alors que le monde ne parviendra pas à atteindre l'objectif de son élimination d'ici 2025. Un texte de la rédaction, paru le 15 mai 2025 sur le site web de l'Organisation internationale du travail, OIT. Le monde doit redoubler d'efforts pour éradiquer le travail des enfants sous toutes ses formes, a plaidé l'ONU lors de sa réunion intitulée « Une enfance dans la dignité » tenue récemment. Malgré des avancées significatives, 86 millions d'enfants de moins sont concernés par le travail des enfants par rapport à 2000, année de référence, les pays ne parviendront pas à honorer leur engagement collectif visant à éliminer totalement cette pratique d'ici 2025. Les participants au dialogue interactif informel ont affiché une forte détermination à faire face à cette crise persistante, notamment le recrutement forcé d'enfants dans les conflits armés. Philemon Young, président de l'Assemblée générale des Nations unies, a ouvert la réunion en déclarant « L'objectif de développement durable 8.7 appelle à l'élimination du travail des enfants sous toutes ses formes d'ici 2025 ». Nous devons agir avec une urgence redoublée pour garantir à chaque enfant une vie digne et pleine de possibilités. Nous devons résoudre les causes profondes du travail des enfants. Nous devons également renforcer l'application des lois sur les salaires équitables, sur la protection de l'enfance et investir davantage dans les enfants, en particulier ceux vivant dans des zones reculées où le travail des enfants est très répandu. Gilbert F. Ungbo, directeur général de l'OIT, a rappelé « N'oublions pas que l'abolition effective du travail des enfants est un principe fondamental et un droit du travail. Ces principes fondamentaux sont plus essentiels que jamais dans un ordre mondial bouleversé par les inégalités, les conflits et l'incertitude qui mettent en péril les fondements du travail décent. » La discussion a mis en avant deux conventions essentielles de l'OIT, la Convention numéro 138 sur l'âge minimum, 1973, et la Convention numéro 182 sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui couvre l'esclavage, le travail forcé, la traite, etc., et qui a été ratifiée universellement. Bien que les cadres juridiques soient en place, de graves lacunes subsistent dans leur mise en œuvre, compromettant l'objectif d'élimination du travail des enfants en 2025. le directeur général de l'OIT a ajouté « Il est évident que nous ne respecterons pas l'objectif des ODD d'ici 2025. C'est très préoccupant et cela nous oblige à accélérer l'action. Nous ne pouvons construire des sociétés inclusives ou une prospérité partagée si des millions d'enfants sont privés de leurs droits. Assurons-nous qu'aucun enfant ne soit privé de son enfance ni de son éducation. » Principaux enseignements du dialogue. Mise en œuvre complète des conventions de l'OIT sur l'âge minimum et les pires formes de travail des enfants. Amélioration des données et des statistiques pour renforcer les politiques fondées sur des preuves. Intégration du travail des enfants dans les politiques nationales d'éducation, de protection sociale et d'emploi. Promotion du travail décent pour les parents, levier essentiel pour lutter contre la pauvreté. Accès universel à une éducation de base gratuite et de qualité et à des programmes de développement de la petite enfance. Élimination du travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement. Prévention du recrutement et de l'utilisation d'enfants dans les conflits armés. Partenariat et action collective pour sensibiliser, coordonner, partager les bonnes pratiques, suivre les progrès et mobiliser les ressources. Selon les dernières données de l'OIT et de l'UNICEF, 160 millions d'enfants, 63 millions de filles et 97 millions de garçons étaient engagés dans le travail des enfants début 2020. Parmi eux, 79 millions effectuaient des travaux dangereux menaçant leur santé, leur sécurité et leur développement moral. Le prochain rapport, Estimation mondiale 2025 sur le travail des enfants de l'OIT et de l'UNICEF, sera publié le 11 juin. C'était l'ONU appelle à une action plus rapide contre le travail des enfants alors que le monde ne parviendra pas à atteindre l'objectif de son élimination d'ici 2025, un texte de la rédaction paru le 15 mai 2025 sur le site web de l'Organisation internationale du travail.
Plein feu sur le leadership des femmes, Victoria Legault. Un texte de Ruby Pratka paru le 27 mai 2025 dans le magazine Fugue. Quand la jeune Victoria est entrée en cinquième secondaire à Amos en Abitibi avec un nouveau prénom et de nouveaux pronoms, elle n'avait pas encore vu une autre personne trans en chair et en os et la transidentité était encore peu connue dans sa communauté. On commençait à en entendre parler un peu plus, se souvient-elle. Les gens avaient une certaine curiosité, qui était parfois un peu maladroite, mais en même temps portée sur l'ouverture. Les gens voulaient comprendre. Est-ce qu'une ado trans québécoise d'aujourd'hui connaîtrait une transition sociale plus simple que celle de Victoria? La réponse à cette question est compliquée. Victoria Legault, 23 ans, a été bénévole et membre du CA de l'ATQ pendant plusieurs années avant d'accéder à la direction générale. La jeune femme dynamique a travaillé d'arrache-pied pour solidifier la base financière de l'organisme, augmenter sa visibilité et ajouter un programme d'aide à la recherche d'emploi à l'offre de services de l'ATQ. Politisation de l'existence des personnes trans. En parallèle, elle a assisté à la politisation croissante de l'existence même des personnes trans par certains politiciens. L'ouverture relative qu'elle a connue plus jeune a été graduellement remplacée par l'appréhension, parfois la confrontation. À l'ATQ, ça s'est traduit par une augmentation de la demande pour les services de soutien psychosocial, au point où les intervenants et intervenantes se sentent dépassés et enterrés, particulièrement depuis l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump au sud de la frontière. Les personnes qui appellent l'ATQ sont de plus en plus anxieuses et se sentent isolées. Certains, certaines appellent même des États-Unis et la petite équipe de la TQ doit leur dire qu'ils n'ont pas les outils pour encadrer les aspirants, aspirantes, demandeurs d'asile. On dirait que le narratif ou l'approche de la société a changé parce qu'on a tellement diabolisé les personnes trans, observe Victoria. Ce qui est triste là-dedans, c'est que ça décourage certaines personnes à s'afficher de façon authentique. Il y a des personnes avant moi qui ont milité tellement fort pour qu'on sorte du placard, puis qu'on puisse sortir de la marge et intégrer pleinement la société. Puis là, il y a des gens qui veulent qu'on retourne dans le placard et dans la marge. Une intolérance croissante chez les jeunes. Elle mentionne l'étude du Gris Québec, dévoilée en janvier, qui fait état d'une intolérance croissante des élèves envers leurs camarades de classe LGBTQ+. La montée des discours haineux et masculinistes en ligne, l'accessibilité de ces discours et une certaine polarisation des débats sociaux sont mises en cause. Il y a beaucoup de jeunes, notamment de jeunes garçons, qui malheureusement se reconnaissent là-dedans, qui ont l'impression que parce qu'on donne des droits ou des protections ou une pointe de la tarte à des personnes marginalisées, ils en perdent, se désole Victoria Legault. Elle espère qu'un jour, bientôt, les personnes trans pourront vivre tranquillement, sans que leurs identités soient constamment remises en question dans la sphère politique et médiatique. En ce moment, ça devient parfois dangereux d'être une personne visiblement queer. Tu t'exposes à de la discrimination à l'embauche ou au logement, dit-elle. Pourquoi les politiciens s'attardent-ils autant à parler des enjeux trans quand les gens ont de la misère à se loger, à se nourrir? Je comprends que les gens parfois sont tannés d'en entendre parler. On est devenu comme un bouc émissaire pour tous les maux de la société, parce que finalement, les partis politiques ne sont pas capables de considérer les vrais problèmes puis de les régler. Adolescente, Victoria Legault a mis le cap sur une carrière d'avocate. À l'heure actuelle, elle suit des cours de leadership et gestion en ligne à la Harvard Business School, tout en travaillant à temps plein pour la TQ. Malgré le climat politique actuel, elle est pleine d'espoir pour la suite des choses. L'histoire nous montre ce dont on est capable, en fait. Quand on s'organise, puis qu'on travaille de façon intelligente, on est capable de défaire ces mouvements-là, tu sais. Donc, je me nourris de ça. Info. Victoria est la directrice générale de Aide aux trans du Québec, ATQ. Site web aideautrans.com. C'était Plein feu sur le leadership des femmes, Victoria Legault. Un texte de Ruby Pratka paru le 27 mai 2025 dans le magazine Fugue.